Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 15 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. L'arsenal iranien s'ouvre à l'Irak. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, Téhéran a démenti le scénario hollywoodien concernant la liquidation d'un chef d'Al-Qaïda sur le territoire iranien avancé par les États-Unis et Israël. L'Iran se dit prêt à répondre aux besoins de l'Irak sur plan défensif. Le cerveau de l'attaque barbare contre l'université de Kaboul en Afghanistan arrêté. Et puis au Yémen, la base stratégique d'Almas est sur le point de tomber, missiles, blindés, munitions à profusion. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Restez avec nous. À la une de ce journal, Téhéran a démenti les allégations concernant la liquidation d'un chef d'Al-Qaïda sur le territoire iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a démenti toute allégation concernant l'assassinat d'un chef d'Al-Qaïda sur le territoire iranien. Saïd Khatibzadeh a nié toute présence des membres de ce groupe terroriste en Iran. En réponse à la question d'un journaliste au sujet de certains rapports publiés par des sources israéliennes et d'un récent rapport du New York Times alléguant l'assassinat d'un responsable d'Al-Qaïda en Iran, le diplomate a nié fermement toute présence des membres de ce groupe terroriste en Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conseillé aux médias américains de ne pas tomber dans le piège des responsables américains et du régime sioniste dans les scénarios hollywoodiens. Les États-Unis n'ont évité aucune accusation contre la République islamique d'Iran dans le passé et cette approche est devenue une tendance permanente dans l'administration américaine actuelle et la Maison-Blanche. De telles accusations sont dans le cadre du plan américain de l'iranophobie, ajoute Khatibzadeh. Le groupe terroriste Al-Qaïda est le résultat de la mauvaise politique des États-Unis et de ses alliés dans la région. Washington et Tel Aviv tentent de temps en temps de se soustraire à la responsabilité des activités criminelles de ce groupe en présentant l'Iran comme associé à de tels groupes en divulguant de fausses informations aux médias. D'après un rapport remonté de toutes pièces au New York Times, des responsables des services de renseignement américains ont déclaré à ce journal qu'en août 2020, le numéro 2 d'Al-Qaïda et sa fille, la veuve du fils de Ben Laden, ont été assassinés dans la rue Pastoran à Téhéran par des agents israéliens et à la demande des États-Unis. Les événements causés par les élections américaines ont accéléré le déclin des États-Unis, déclaration du président du Parlement iranien. Les événements causés par les élections américaines ont montré le vrai visage des États-Unis et ont accéléré le déclin de ce pays en brisant son hégémonie, a déclaré le président de l'Assemblée iranienne. Lors d'une séance publique de l'Assemblée iranienne, Mohammad Borel Golibov a déclaré « Les récentes élections américaines et les événements qui ont eu lieu avant et après ces élections ont été très informatifs et ont exposé à l'opinion publique dans le monde entier le vrai visage sans retouche des États-Unis qui, pendant des années, cachaient leurs problèmes structurels, sociaux, politiques et économiques avec la force des médias américains. Le président de l'Assemblée islamique d'Iran a ajouté « La vraie Amérique, qui, malgré sa force économique et militaire, est face à de profondes divisions sociales et à une discrimination systématique, est loin de l'Amérique, idéalisée par les médias. Et la vraie image des États-Unis, dévoilée aujourd'hui, montre le déclin de ce pays. » Golibov a poursuivi « Comme mon cher frère Hassan Nasrallah a déclaré, il y a quelques jours, nous sommes heureux de la défaite et de l'humiliation de l'assassin du général martyr Qassem Soleimani et du martyr Abu Mahdi al-Muhandis. » L'Iran se dit prêt à répondre aux besoins de l'Irak sur plan défensif. Le ministre irakien de la Défense s'est entretenu ce matin avec le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Jorma Enad, ministre irakien de la Défense, qui est en visite à Téhéran en tête d'une haute délégation militaire, a rencontré ce dimanche matin, 15 novembre, le général Mohammad Borrelli, chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran. Cette rencontre a pour objectif de développer les relations militaires et défensives entre les deux pays voisins. Les deux parties ont abordé divers sujets d'intérêt commun, tels la lutte antiterroriste, l'établissement de la sécurité dans la région, des moyens de prévenir l'instabilité dans la région et le partage des expériences précieuses et des capacités technologiques de la République islamique d'Iran en matière de la défense. Le ministre irakien de la Défense, Joma Enad, et la délégation l'accompagnant sont entrés à Téhéran samedi 14 novembre afin de tenir des consultations avec des autorités militaires de la République islamique d'Iran. Hier samedi, une rencontre a également eu lieu entre le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hotami et son homologue irakien. Le ministère de la Défense a dit prêt l'Iran à répondre aux besoins des forces armées irakiennes pour renforcer la puissance de défense chez le pays voisin. Nouveaux raids israéliens dans la bande de Gaza, assiégés en pleine crise de Covid. L'armée israélienne a frappé plusieurs endroits dans la bande de Gaza assiégée avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Israël a déclaré que les attaques visaient les infrastructures souterraines et les postes de sécurité du mouvement de la résistance palestinienne, Hamas. Des sources à Gaza affirment que les attaques israéliennes ont frappé des zones de Khan Younes, Rafah et Beit Hanoun. Le régime affirme que les frappes étaient en réponse à des tirs de roquettes pendant la nuit depuis la bande de Gaza. Israël mène fréquemment des attaques contre l'enclave palestinienne considérée comme la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde. Gaza est assiégée par Israël depuis 2007 et souffre toujours de la pénurie sur divers plans d'eau médicale en cette période de crise sanitaire. Sachez d'autre part que des affrontements ont éclaté entre les forces israéliennes et des manifestants qui protestaient contre le premier ministre Benjamin Netanyahou à Al-Quds occupée. Les manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Netanyahou pour condamner sa politique et appeler à sa démission. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Les manifestations ont eu lieu malgré l'interdiction de tout rassemblement. Les Israéliens ont organisé des rassemblements de rue au cours des derniers mois pour protester contre la flambée du chômage, une augmentation des infections au Covid-19, ainsi qu'un retour des restrictions liées au Covid. Les accusations de corruption auxquelles le Premier ministre est confronté viennent s'ajouter au sentiment anti-régime. L'actualité au Yémen, base stratégique d'Al-Mas, est sur le point de tomber, missiles blindés, munitions à profusion. Après 2 semaines de combats, les forces de Sana'a, composées de l'armée yéménite et d'Ansar Allah, ont resserré leur contrôle sur le camp stratégique d'Al-Mas, qui est la dernière et la plus importante ligne de défense de la ville de Ma'arib. Un développement qui a ouvert la voie à l'armée et au comité populaire d'Ansar Allah pour avancer vers la ville, que ce soit depuis le désert de Jadan ou depuis la ligne principale reliant Sana'a à Ma'arib. Autre thème, le cerveau de l'attaque meurtrière contre l'université de Kaboul en Afghanistan a été arrêté, ont affirmé les responsables afghans. Au moins 22 personnes, des étudiants pour la plupart, ont été tuées et au moins 27 autres ont été blessées le 2 novembre lorsque 3 hommes armés ont pris d'assaut l'université pendant des heures allant de salle en salle à la recherche de victimes. Direction la France, où le nombre de STF a doublé depuis 2012, selon la Fondation Abbé Pierre. Malgré l'engagement d'Emmanuel Macron fin 2017, visant à apporter un toit à tous les sans-abri, 300 000 personnes dorment encore à la rue dans l'Hexagone, selon la Fondation Abbé Pierre. Un chiffre qui inquiète par sa récente progression. Enfin, les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face au conflit entre les forces gouvernementales éthiopiennes et les minorités séparatistes dans la région de Tigré. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, exprime une inquiétude croissante face à la détérioration rapide de la situation au Tigré. Elle avertit qu'aussi les séparatistes du Tigré et les forces gouvernementales éthiopiennes continuent sur la voie qu'elle emprunte, il y a un risque que cette situation devienne totalement incontrôlable, entraînant de lourdes pertes et destructions ainsi que de déplacements massifs en Éthiopie elle-même, voire au-delà des frontières. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Restez avec nous dans quelques instants, notre commentaire politique. L'arsenal iranien s'ouvre à l'Irak. Le ministère iranien de la Défense, doté de capacités et infrastructures abondantes qui sont le résultat des sanctions oppressives de la période post-révolution, est prêt à répondre aux besoins des forces armées irakiennes pour renforcer la puissance défensive de l'Irak, le voisin. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien de la Défense. S'exprimant lors d'une rencontre avec son homologue irakien Juma Anat Sadoun, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hotami, a commémoré les martyrs de la résistance, en particulier les martyrs Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandes, et a déclaré « Les peuples iraniens et irakiens, les pays de la région et l'humanité tout entière doivent beaucoup à ces deux commandants ». Et les combattants de l'axe de la résistance ainsi que les nations iraniennes et irakiennes ne passeront pas du sang de leurs héros. Aujourd'hui, l'Irak jouit d'une meilleure sécurité que par le passé et nous continuons à soutenir le processus politique, la stabilité, la sécurité et l'intégrité territoriale de notre voisin, a souligné le général Hotami. L'Iran et l'Irak ont mené de bonnes coopérations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du rétablissement de la sécurité à l'échelle régionale. Nous les considérons comme un bon modèle à suivre. Le développement de l'Irak est nécessaire pour l'instauration de la stabilité et de la sécurité dans ce pays. Nous sommes prêts à participer à la reconstruction et au développement de l'Irak, a-t-il ajouté. Le ministre iranien de la Défense a ensuite souligné que les dirigeants iraniens et irakiens ont la volonté politique au plus haut niveau d'approfondir leurs relations bilatérales. Selon ce dernier, l'insécurité et l'instabilité de la région ne se limitent pas aux dernières années et décennies. Au contraire, la situation a été malheureusement plus ou moins la même au cours des siècles passés et elle est due à l'intervention d'étrangers et de puissances coloniales et arrogantes. Et aujourd'hui, la région traverse des conditions très sensibles et difficiles. Sans la résistance de la nation, des forces armées, des gouvernements irakiens et syriens face aux agresseurs et terroristes criminels, la région aurait pu se trouver dans une situation encore plus dangereuse et dramatique, a précisé le général Hotami. Il a réitéré que le comportement des grandes puissances à leur tête, les États-Unis, a montré qu'elles ont des plans à long terme pour déstabiliser la région. Nous pensons que les pays de la région doivent assurer et gérer eux-mêmes la sécurité de la région. Et tant que les forces extra-régionales seront présentes et impliquées, il ne sera pas possible de parvenir à la stabilité et à la paix, indique le ministre iranien. Amir Hotami évoque les récentes évolutions concernant la normalisation des relations de certains gouvernements avec le régime sioniste et précise « Nous considérons cela comme une trahison envers les nations musulmanes ». De son côté, le ministre irakien de la Défense, Juma Anat Sadoun, s'est dit satisfait de sa visite en Iran, pays ami, frère et voisin, avant d'ajouter « Notre premier objectif dans ce voyage est de renforcer et de consolider nos relations bilatérales. Notre deuxième objectif est de se familiariser avec les acquis scientifiques et techniques de la République islamique d'Iran et d'acquérir des expériences précieuses dans le domaine militaire, d'où la présence d'une délégation de hauts commandants des forces armées irakiennes en Iran. » Grâce aux échanges bilatéraux, nous essayons de renforcer les capacités des forces armées irakiennes pour combattre et éradiquer le terrorisme, dont les racines sont toujours actives dans la région. Et nous ne nous ménagerons aucun effort jusqu'à leur destruction complète, a noté le ministre irakien de la Défense. Nous sommes fiers d'avoir pu vaincre Daesh en Irak dans les plus brefs délais. Et le peuple irakien n'oubliera jamais l'aide des conseillers en armement de la République islamique d'Iran pour chasser et vaincre Daesh. Et nous sommes toujours reconnaissants envers l'Iran pour ses aides et soutiens fraternels sans faille au peuple et au gouvernement irakien, a conclu le ministre irakien de la Défense.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Aux États-Unis, le duel reste toujours extrêmement serré entre les deux candidats à la Maison-Blanche au lendemain des élections présidentielles américaines. Donald Trump a plongé en effet ce mercredi les États-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de l'élection présidentielle alors que le décompte se poursuit, une déclaration qui a suscité une contre-attaque immédiate de son adversaire Joe Biden en position plus favorable pour l'emporter. Dans ce contexte, en effet, le spectre de longues journées d'incertitude et d'approbataille judiciaire entre désormais les États-Unis, déjà secoués par des crises sanitaires, économiques et sociales d'ampleur. En ce qui concerne le positionnement de la République islamique d'Iran, dans un discours, le leader de la révolution islamique hier a souligné que la politique de l'Iran ne changerait pas à l'égard des États-Unis après les élections présidentielles dans ce pays. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que le système politique américain subit un grave déclin, peu importe qui arrive au pouvoir dans ce pays. Il a également souligné que l'hostilité de Washington à l'égard de la nation iranienne ne peut être levée car la nation iranienne ne, en effet, se rendra jamais à la volonté américaine. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce déclin, justement, du système politique américain et la réaction de la République islamique d'Iran au scrutin aux États-Unis, mais aussi les conséquences, en effet, de ces élections au moment où, justement, les États-Unis traversent une grave crise politique, sociale, sanitaire. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, a évoqué ce mardi, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ainsi que celle du sixième imam chiite, le vénéré Jafar Sadr, béni soit-il, la naissance d'une personnalité dont la prophétie constitue de loin l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Or, cette naissance bienheureuse coïncide cette année avec un autre anniversaire, le 13 Aban du calendrier iranien, 3 novembre, jour où les étudiants iraniens ont capturé l'ambassade US à Téhéran, et ce, peu de temps après la victoire de la révolution islamique. Et de renchérir, ils créent des bases, ils déclenchent des guerres, ils occupent des pays entiers en puissance hégémonique absolue qu'ils sont. Or, l'ennemi de l'islam, son principal ennemi, est cette Amérique hégémoniste. Cette arrogance mondiale socialisme qui se bat contre l'islam avec tout ce qu'ils ont à leur disposition et sur tous les fronts. Le dernier épisode de cette guerre est ce qui s'est produit la semaine dernière en France. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un caricaturiste qui commet un outrage et offense le prophète de l'islam, c'est bien plus. Il existe des mains qui agissent en coulisses, d'où le soutien qu'apporte à ce caricaturiste tout un État, son président et ses dirigeants. L'enjeu dans cette affaire est la politique d'un gouvernement. Le guide suprême de la révolution islamique a évoqué ensuite la présidentielle américaine. La politique iranienne à l'égard des États-Unis est claire, précise et calculée. C'est une politique qui ne change pas si les directions changent aux États-Unis. Qui sera le prochain président des USA, cela n'influera en rien sur notre politique. Je le dis bien souvent, l'Iran devra se renforcer, notre nation, notre pays devront développer leurs capacités et c'est à ce prix qu'ils vaincront l'ennemi. Et qu'on se le dise, notre nation a superbement résisté.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Monsieur Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Monsieur Michel.
L'actualité internationale largement dominée par alors les élections présidentielles aux États-Unis et bien plus encore, c'est justement des accusations de part et d'autre. Hier, dans un discours, le leader de la révolution islamique avait souligné que justement les États-Unis traversent, en ce qui concerne leur système politique, un grave déclin, une grave crise, et que justement ces élections révélaient au grand jour la vraie nature de la libérale démocratie américaine. Qu'en pensez-vous, Maître Develet?
Bien, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec cette déclaration, dans le sens où, aux États-Unis, nous assistons à une espèce de lutte interne au sein de l'oligarchie, en ce qui concerne pas vraiment la vision stratégique du pays en tant que sa perception de lui-même, mais plus en termes de tactique et de gestion au jour le jour. On a d'un côté, si vous voulez, un clan qui est plutôt dans cette conception du monde, du pays-monde. C'est la version un peu clintonesque que Joe Biden en fait représente. Hein. On a une généalogie politique assez déterminée. On pourrait, comme quelqu'un que je respecte et qui a bien compris les institutions américaines, un paradigme dolossien, hein, après les frères Dulles. Et puis de l'autre, on a effectivement une espèce de non-conformisme que représente Donald Trump. Bon, Donald Trump est le nom en tout cas, qui lui voit les choses, en tout cas véhicule cette espèce de fronde en interne qui porterait à laisser entendre que les États-Unis doivent recentrer, si je puis dire, leurs opérations et arrêter peut-être d'avoir ce messianisme comme politique étrangère, de revenir à des fondamentaux, à savoir plutôt Brzezinski, hein. Parmi les sept points qui définissaient la doctrine Brzezinski, c'est si vous allez par exemple déclencher une guerre, quels sont les buts politiques de cette guerre et vous donnez-vous les moyens de la gagner sur le terrain. Or, depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que la politique qui a été mise en place au niveau de la politique étrangère est une politique qui semble n'être basée que sur des conflits qui permettraient, si je puis dire, de gérer ensuite le chaos qui s'ensuit, au détriment des peuples, bien sûr, qui sont eux-mêmes victimes de cette politique, avec l'idée, si vous voulez, de contrôler l'espace international au travers d'une doctrine de chaos. Voilà. Donc, c'est au travers de cette élection se joue, en fait, cette vision entre, gardons à l'esprit, une oligarchie qui n'a pas l'intention d'abandonner son emprise sur les relations internationales d'une manière, on va dire, radicalement différente de ce qu'elle a pu connaître. Mais au niveau de la gestion, voilà, il y a ces deux factions. Et comme on peut le voir dans le cadre des guerres culturelles que cela engendre, enfin ça, je pense que c'est plus quelque chose qui a à voir avec l'ingénierie sociale qui est pratiquée aux États-Unis, on assiste effectivement à un pays extrêmement fracturé. Et comme cette élection semble le laisser entendre, on s'achemine lentement, mais sûrement vers une radicalisation, à mon avis, si d'un côté comme de l'autre, les institutions telles qu'elles existent, en tout cas aujourd'hui, ne semblent pas dégager un vainqueur clair et net. C'est ça le plus gros danger pour tous.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Develle, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et bonjour à mon collègue, Maître Develle.
Quelle est votre impression de ce pays extrêmement fracturé au lendemain des élections présidentielles américaines?
Écoutez, on a un peu l'impression d'un remake de 2006. De 2016, c'est la façade de la démocratie américaine qui se prétend la démocratie avec un grand la que tout le monde devrait imiter. C'est en fait un régime archaïque, oligarchique. C'est un régime qui ne fonctionne plus, qui a atteint ses limites. Et les querelles entre les candidats, ce sont les querelles d'une oligarchie prédatrice. Maintenant, il y a une deuxième faillite. Et comme en 2016, c'est la faillite des médias américains. Les médias américains prétendent aussi être les parangons de la presse et de l'information. Et le tropisme anti-Trump de la plupart des médias, qui est transparent également en Europe occidentale, a conduit à ce que simplement toutes les prévisions ne se sont pas révélées, loin de là. Les sondages bidons étaient faux et nous constatons dans tout cela tout simplement que la vague démocrate qui aurait dû arriver, c'est pour le moins parler, ne s'est pas fait attendre. Maintenant, le système américain, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'impérialisme américain lui-même. C'est un système qui s'est mis au point depuis le début du 19e siècle. C'est un système bipartisan. L'impérialisme américain, il est piloté pas seulement depuis la Maison-Blanche, mais depuis le Congrès, le Sénat des États-Unis, les services de renseignement, le Pentagone, ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, l'appareil de déstabilisation des ennemis de l'Amérique dans le monde, tout ça est piloté de façon bipartisane. Pour les peuples, ça ne change pas grand-chose. On en a un exemple en Afrique, d'ailleurs. La politique africaine, elle est déterminée par un think-tank tout-puissant, une pieuvre qu'on appelle l'Atlantic Council, qui trusse les postes d'ambassadeurs, de diplomates, de responsables du département d'État. Et ce sont les mêmes qui sont en fonction sous Bush 2, sous Obama et sous Donald Trump. Il y aura donc, je suis tout à fait d'accord avec la position iranienne qui dit que ça ne changera rien pour l'Iran parce que l'hostilité, elle est de nature idéologique. L'américanisme, l'idéologie américaine, qu'est-ce que c'est? C'est la prétention à être régie par une manifeste destinée, c'est-à-dire une destinée manifeste qui aurait fait des Américains la nouvelle tribu, la 13e tribu d'Israël, destinée par le Dieu américain à gouverner le monde. Lorsqu'on a une telle arrogance et une telle prétention, on ne peut évidemment pas avoir des rapports paisibles avec les autres peuples.
Merci pour ces précisions, M. Michel. Restez avec nous. Maître Develle, justement, sur alors cette déclaration d'hier du leader de la révolution islamique, selon laquelle la politique de la République islamique d'Iran ne changerait pas après, à l'égard des États-Unis après les élections présidentielles dans son pays. Donc, l'Iran a toute raison, justement, de soutenir qu'il ne, en effet, se souciait guère de savoir qui deviendrait le prochain président des États-Unis parce que, alors comme l'a rappelé hier le leader de la révolution islamique, les États-Unis sont un pays impérialiste et l'Iran a refusé, en effet, refusera toujours bien entendu de se soumettre à la volonté américaine. Donc l'hostilité américaine à l'égard de l'Iran ne peut être levée. Donc, et la politique de la République islamique d'Iran à l'égard justement de ce pays impérialiste, de ce pays arrogant, est une position calculé, sensé, bien clair. Et donc là, il n'y aura aucun changement dans le positionnement de la République islamique d'Iran.
Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, comme l'a souligné M. Michel, ce messianisme qui caractérise la politique étrangère américaine ne soutient aucune opposition, si je puis dire, idéologique. Dès lors qu'un pays se dresse contre cette vision unilatérale du monde et qui englobe un petit peu la planète entière dans une espèce de modèle qui est fondé sur le consumérisme, l'absence de spiritualité au sens bien compris, l'individualisme forcené et surtout la transcendance qui devrait normalement être prise en compte dans toute façon de gérer une société, on ne peut qu'être témoin d'une situation de collision. À cet égard, vous ajoutez à cela que la situation a bien changé depuis la révolution islamique, que maintenant la multipolarité est en train de ressurgir, l'histoire fait son retour avec fracas. Et dans ce contexte-là, la République islamique d'Iran a beaucoup de cartes à faire valoir et elle a réussi, à force de persistance, de patience, de sang-froid, à survivre à un environnement extrêmement hostile jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle ne soit plus seule, que d'autres centres de puissance maintenant sont en train de s'affirmer pour les uns ou se réaffirmer pour d'autres, et que le constat en ce qui concerne toutes ces puissances est le même, c'est que en ce qui concerne l'hégémonie américaine, la seule solution, c'est de travailler ensemble et de coordonner, si je puis dire, une alternative ce rouleau compresseur qui, comme votre reportage l'a bien souligné, utilise tous les ressorts, je dis bien tous les ressorts, que ce soit culturel, financier, militaire, et qui a vocation à, si je puis dire, 24 heures sur 24, de manière constante, infiltrer les pays qu'elle a considérés comme étant des obstacles à son hégémonie, afin de transformer, si je puis dire, détourner l'opinion publique, essayer de laisser entendre que la seule voie, c'est la voie impériale américaine. Et donc, dans ce contexte-là, on assiste à une situation maintenant où la République islamique d'Iran a des arguments à faire valoir et que plus que jamais, effectivement, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle en cours, plus que jamais, cette politique qui a démontré tout le succès qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran est en mesure d'être probablement le seul pays qui ait résisté depuis des décennies à une tentative de déstabilisation de tous les instants. Le discours du leader de la République islamique d'Iran est donc parfaitement justifié et fondé sur des faits objectifs qui ne peuvent pas être mis de côté dans ce sens-là.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, Maître Develay a rappelé l'efficacité et le succès de la politique de résistance de la République islamique d'Iran à l'égard de l'hégémonie américaine. Alors, bien sûr, avec Trump, non seulement l'Iran, non seulement les pays de la région, mais aussi même les alliés de Washington, justement, ont pris conscience, se sont rendus compte que là, il s'agissait justement d'une politique non seulement hors la loi, en contradiction avec le droit international, mais aussi une politique justement impérialiste, hégémonique et monopoliste. Ceci étant dit, alors, après ces élections, quel choix politique faudrait-il s'attendre de la part du président des États-Unis? Bien sûr, quand je parle du prochain président, peut-être, pour l'Iran, bien sûr, il n'y aura aucun changement avec justement le changement de direction à la Maison-Blanche, mais pour justement les autorités de la Maison-Blanche, est-ce que le moment n'est pas venu pour adopter des choix politiques plus soucieux justement du droit international et plus respectueux justement des lois de l'ONU, des résolutions de l'ONU, ou encore en ce qui concerne justement l'indépendance même et la souveraineté de leurs alliés, y compris les alliés de Washington. Je parle justement des pays européens.
Écoutez, Trump, en fait, il a profondément dévié la conception même des relations internationales. Mmh. Jusque-là, le monde, il était plus ou moins ordonné avec une certaine logique. c'était le grand échiquier de Kissinger et Brzezinski, et Trump, il a remplacé ça par ce que j'ai appelé la géopolitique des tables de poker, c'est-à-dire des coups de bluff, des bancos comme au casino. On essaye, on voit, c'est expliqué d'ailleurs dans le livre de mémoire de Trump qui s'appelle « L'art du deal ». Lorsqu'on conçoit les relations internationales, comme on conçoit l'immobilier américain, ça ne peut conduire qu'à la situation actuelle. Le chaos, il est partout, il est à l'ONU, il est sur tous les continents, il est dans les organisations internationales. Maintenant, si les dirigeants américains s'étaient jamais préoccupés des lois internationales, ça se saurait depuis longtemps. Il y a toujours eu des coups de force qui ont été menés, particulièrement au cours des dernières décennies. Est-ce que, dans l'hypothèse où Biden l'emporterait, mais aujourd'hui on en est loin puisqu'on est dans une situation où les deux candidats sont de force égale et où Trump a déjà prononcé sa victoire. Si Biden devait l'emporter, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Derrière Biden, ce sont les réseaux d'Obama, des Clinton et de leur mentor, le financier George Soros. Simplement, l'impérialisme américain prendrait probablement d'autres façons de s'exprimer. Mais je rappellerai quand même que ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe ou le soi-disant printemps africain, ils ont été lancés par Obama et Clinton. Et en 2018, Trump, il était encore associé à Bolton, s'était contenté de lancer un super printemps arabo-africain qu'on a appelé la nouvelle politique africaine de Trump. Donc je ne crois pas à un changement de dimension de l'impérialisme américain. Simplement, il est exact que les démocrates auraient tendance à plus ménager les alliés de l'OTAN, mais il faut encore voir, bien entendu, dans quelle mesure est-ce qu'un redéploiement de l'OTAN pourrait être véritablement conduit. Je l'expliquais par une administration démocrate qui sera limitée. Vous savez déjà que les démocrates ont échoué, ils ont conservé le contrôle de la Chambre des représentants, ils ont échoué à prendre le contrôle du Sénat. Le Sénat reste républicain et trumpiste. La grande surprise, c'est qu'en 4 ans, la base politique de Trump, elle s'est un peu ossifiée, elle s'est structurée, elle s'est organisée. Deuxièmement, vous savez que Trump a fait nommer, pendant sa présidence, 3 juges à la Cour suprême des États-Unis, la dernière il y a quelques jours, et pendant un quart de siècle, ces juges étant nommés à vie par une oligarchie américaine qui est régie par des règles d'ancien régime, eh bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Les démocrates vont trouver face à eux un double mur, le mur du Sénat et le mur, évidemment, de la Cour suprême. Donc, je n'attends pas de grands bouleversements de l'impérialisme américain lui-même, même si la façon de gouverner des démocrates sera forcément plus souple que celle de Trump.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Crise en Libye, la mission d'appui de l'ONU annonce le 24 décembre 2021 pour des éventuelles élections générales. La Libye aurait finalement fait ses élections générales le 24 décembre 2021. Athènes a pris vendredi soir auprès du bureau de presse de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye qui conduit le forum du dialogue politique libyen en cours depuis le 9 novembre à Tunis. J'ai le plaisir d'annoncer qu'aujourd'hui, les participants au forum de dialogue politique libyen ont convenu que la date des élections nationales en Libye devrait être le 24 décembre 2021, a révélé Stéphanie Williams, chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye. La responsable onusienne a souligné dans une vidéoconférence que le 24 décembre est le jour de l'indépendance de la Libye. C'est un jour symbolique, un jour très important pour les Libyens, mais ce sera aussi un jour critique dans l'histoire de la Libye, car ce sera un moment, une occasion où ils pourront élire démocratiquement leurs dirigeants et renouveler la légitimité de leurs institutions. Nous travaillerons, a-t-elle ajouté, avec eux pour obtenir la pleine émancipation, y compris la capacité de ceux qui ont été déplacés de chez eux, de pouvoir voter, de garantir les conditions de sécurité nécessaires et aussi la pleine habilitation de la Haute Commission électorale nationale, qui est l'organe national chargé de la conduite des élections. D'après elle, les 75 participants sont parvenus à un accord préliminaire sur une feuille de route pour la phase préparatoire à ces élections nationales en Libye. Côte d'Ivoire, Ouattara rencontre le leader de l'opposition pour apaiser les tensions socio-politiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré mercredi à Abidjan le leader de l'opposition Henri Konan Bédié pour tenter de renouer le dialogue et apaiser les tensions socio-politiques nées des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre. Et j'ai eu un entretien fraternel avec le président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer la préservation de la paix dans notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer le dialogue, a déclaré de Ouattara au terme de cette rencontre de 45 minutes dans un grand hôtel d'Abidjan. Pour sa part, Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et chef de la coalition de l'opposition, indique que lors de l'entretien, il a principalement été des questions de la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. La rencontre a permis de briser le mur de glace et nous avons convenu de nous revoir prochainement. Mais avant cette nouvelle rencontre, il semble indispensable pour les plateformes politiques de l'opposition de faire le point sur leurs attentes et leur vision de l'avenir, a-t-il déclaré. La rencontre entre le chef de l'État et celui qui fut de son principal allié contre Laurent Gbagbo jusqu'en 2016 était très attendu en raison de la détérioration du climat politique et social depuis l'annonce le 6 août de la candidature de M. Ouattara pour un troisième mandat. Suite à cette annonce, l'opposition conduite par M. Bédié a appelé à la désobéissance civile et au boycott du scrutin présidentiel du 31 octobre. Éthiopie. Le conflit du Tigré de 7 ans à d'autres régions. Le gouvernement régional du Tigré a tiré des roquettes sur deux aéroports de la région voisine de d'Amhara en Éthiopie. Le conflit meurtrier qui oppose le gouvernement national éthiopien à la région du Tigré menace de s'étendre à d'autres régions du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Dans une déclaration sur Tigray TV, le gouvernement fédéral a déclaré que de telles frappes se poursuivront à moins que les attaques contre les forces armées du Tigré ne cessent. Il a aussi déclaré que les aéroports de Gondar et Bahir Adar ont été endommagés lors des frappes aériennes éthiopiennes vendredi dernier, ce qui justifierait l'usage par l'armée tigréenne des dernières armes de son arsenal. Les combats meurtriers qui ont éclaté dans la région du nord du Tigré le 4 novembre ont fait des centaines de morts du côté du gouvernement fédéral et du gouvernement régional. Ont envoyé plus de 17 000 réfugiés au Soudan voisin et ont suscité l'alarme internationale sur une possible guerre civile au cœur de la Corne de l'Afrique. Niger, la Cour constitutionnelle autorise de 30 candidats à se présenter à la présidentielle sur 41 déclarés. La Cour constitutionnelle nigérienne a déclaré inéligibles 11 dossiers, 30 dossiers et éligibles à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Parmi les candidats dûment désignés au terme de cet arrêt de livre vendredi soir sur les chaînes publiques nigériennes par le président de la dite cour, Boubar Bahaman, figure notamment l'ancien ministre d'État en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Il y a également d'autres figures de proue sur cette liste. Pour rappel, le président de la République actuelle, Mahamudu Issoufou, en fin de mandat, a plusieurs fois dit qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle le mandat de la force de maintien de la paix à Abyei pour 6 mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé jeudi le mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU à Abyei, un territoire disputé entre le Soudan et le Soudan du Sud, pour 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 15 mai 2021. La résolution 2550, qui a recueilli le soutien unanime des 15 membres du Conseil, a également décidé de prolonger la modification du mandat de la mission de maintien de la paix jusqu'au 15 mai 2021. Le Conseil de sécurité a d'abord modifié le mandat de la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei en décembre 2011 pour ajouter des tâches d'appui à un mécanisme conjoint de contrôle et de surveillance des frontières du Soudan et du Soudan du Sud qui a obtenu son indépendance du 1er juillet en 2011. Selon la résolution, la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei doit maintenir le plafond autorisé des troupes à de 3550 militaires jusqu'au 15 mai 2021 et de maintenir le plafond autorisé des forces de police à de 640 policiers, dont 148 agents de police individuelle et 3 unités de police constituées. L'Algérie investira 20 milliards de dollars dans le gaz et de l'or pour les 5 prochaines années. L'Algérie compte investir un montant de plus de 20 milliards de dollars dans l'industrie du gaz au cours des 5 prochaines années, a indiqué le ministre algérien de l'énergie Abdelmajid Attar. Plus de 20 milliards de dollars devraient être investis au cours des 5 prochaines années dans le développement de la chaîne gazière, a fait savoir le ministre dans une allocution d'ouverture d'une table ronde ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, tenue par vidéoconférence. Pour réaliser ce projet, M. Attar a souligné que la nouvelle loi sur les hydrocarbures promulguée il y a moins d'un an vise à encourager les investissements et promouvoir le partenariat avec les entreprises internationales. Les réserves d'hydrocarbures prouvées étaient constituées de 2 500 milliards de mètres cubes de gaz et de 1,7 milliard de tonnes de pétrole, quoique à ce jour, plus de 50% du total ont été consommés, avait révélé le ministre le 26 octobre dernier sur les ondes de la radio nationale. En effet, partagé entre la demande locale sans cesse croissante en gaz naturel et le souci d'exporter ces hydrocarbures qui représentent 96% de ses recettes en devise, le choix est de l'aveu du ministre difficile à faire pour l'Algérie. Avec environ 80 milliards de mètres cubes par an, l'Algérie se positionne à la 10e place des pays producteurs de gaz au monde. Elle représente de 3,4% des exportations mondiales. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre émission consacrée à l'actualité africaine s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.